Les informations, Camille Magnard.
Une marée populaire peut-être, mais avec quel coefficient la gauche unie des syndicats aux partis politiques arrivera-t-elle à mobiliser dans la rue ceux qui contestent les réformes d'Emmanuel Macron? Ce sera tout l'enjeu donc de ces manifestations organisées aujourd'hui à Paris et partout en France par 70 organisations de la France Insoumise à la CGT en passant par ATTAC et le syndicat de la magistrature. Une nouvelle tentative, on le voit, de convergence des luttes, une tentative vouée à l'échec selon le politologue Jean Petit.
Il n'y a pas de priorité. Et c'est là, quelque part, peut-être la limite actuelle de ces mouvements. Vous savez, cette hypothétique convergence des luttes que d'aucuns appellent de leur vœu depuis maintenant plusieurs semaines. On voit que la juxtaposition de revendications, la juxtaposition de contestations ne constitue pas une agrégation revendicative commune. Il manque sans doute encore aujourd'hui une plateforme qui serait une plateforme unitaire. Et on constate bien, en particulier les deux principales organisations qui sont à la manœuvre, c'est pas du tout ni ATTAC ni la Fondation Copernic, qui sont en quelque sorte un peu des faux-nés, hein, ou des prête-noms dans cette affaire, c'est la France Insoumise d'un côté et la CGT de l'autre. Et on voit bien qu'il y a quand même, j'allais dire, une sorte d'émulation entre le syndicat d'un côté et le parti de Mélenchon de l'autre.
Le professeur à Sciences Po Bordeaux, Jean Petit, invité de France Culture hier soir. Deux personnes tuées à la Kalachnikov à Marseille la nuit dernière. Ça s'est passé dans le quartier de l'Estac et plus précisément dans le local d'un club de football. Les deux victimes sont âgées d'une trentaine d'années. Les policiers marseillais disent à nouveau leur impuissance face à cette violence armée. Lundi dernier, on le rappelle, des agents avaient été mis en joue par des hommes armés, là encore, de Kalachnikov alors qu'ils tentaient d'intervenir sur une fusillade dans une cité des quartiers nord marseillais. L'Irlande en passe d'en finir avec des siècles de prohibition de l'avortement. Selon les sondages sortis des urnes après le référendum constitutionnel d'hier, le oui à une légalisation de l'IVG semble l'emporter très largement à 68% des suffrages. Les résultats officiels sont attendus dans l'après-midi. Le premier ministre irlandais qui avait appelé à voter oui évoque déjà une journée historique pour son pays. Rien de tel qu'un bon coup de pression pour recadrer les discussions. À peine 24 heures après avoir annulé sa rencontre avec Kim Jong-un le 12 juin, Donald Trump louait hier soir le dialogue très productif, renoué depuis avec la Corée du Nord. Il évoque à présent la possible tenue du sommet de Singapour qui pourrait même être prolongée au-delà du 12 juin, selon donc le président américain. C'est une veillée d'élection présidentielle en Colombie. Il s'agira demain de trouver un successeur au président Juan Manuel Santos. Il avait été élu en 2010 et avait obtenu l'an dernier le prix Nobel de la paix pour avoir négocié le désarmement de la guérilla des FARC. Un sujet qui a occupé, il faut bien le dire, une grande place dans la campagne qui s'est achevée hier soir sur un débat télévisé entre les cinq candidats, suivi pour nous par Marie-Ève Deteuf, la correspondante de RFI à Bogota.
À 2, 3 ou 5, les candidats présidentiels ont débattu plus de 50 fois au cours de cette campagne électorale. Ils se tutoient tous maintenant et s'appellent par leur prénom, mais les divergences idéologiques restent profondes. Vendredi soir à la télévision, ils ont parlé impôts, sécurité, éducation et ils ont évidemment parlé de la paix. Le candidat libéral Humberto de la Calle, qui était négociateur de l'accord de paix avec la guérilla, s'en est pris avec véhémence à Iván Duque, le candidat de la droite dure qui s'est toujours opposé au processus de paix et qui parle aujourd'hui de revoir ce qui a été signé.
Je demande aux Colombiens de se mettre la main sur le cœur et de dire si oui ou non ils veulent de la paix. Notre ami Ivan dit qu'il ne va pas toucher aux accords sur le fond, seulement modifier de petites choses. Elles ne sont pas petites, Ivan. Moi, je vois qu'il y a comme un plan pour saboter la paix.
Réponse d'Ivan Duque.
Toi, Humberto, tu nous as dit que les chefs des FARC n'arriveraient pas au Congrès avant d'avoir purgé leur peine de prison. Et ils vont y rentrer directement. Ce qu'il nous faut, c'est un accord de paix qui respecte la justice.
Le candidat de la gauche indépendante, Gustavo Petro, tente lui de déplacer le débat.
Moi, je veux remercier Humberto pour ce qu'il a fait. Mais la paix n'est pas le résultat d'une négociation avec la guérilla. C'est un accord de la société tout entière pour vivre ensemble.
Ivan Duque et Gustavo Petro devraient se retrouver en ballotage dimanche soir.
Un reportage en Colombie de Marie-Ève Deteuf de Radio France Internationale. La crise politique prend un nouveau tour, cette fois à Madagascar, avec l'hypothèse d'une destitution du chef de l'État, à nouveau brandie par la Haute Cour constitutionnelle. Après un mois de manifestations violemment réprimées de l'opposition malgache, les magistrats de la plus haute juridiction de la Grande Île ont donné hier au président jusqu'au 4 juin pour former un gouvernement d'union nationale, faute de quoi la Haute Cour appliquera un précédent arrêté pour destituer tout bonnement le président et son gouvernement actuel. Les explications depuis Antananarive avec Laure Verneau.
Dans une décision en 14 points, la Haute Cour constitutionnelle donne raison à l'opposition. Le président de la République a bien manqué à son obligation de moyens dans l'installation de la Haute Cour de justice. C'est sur ce motif que les députés l'avaient attaqué. Toutefois, la HCC ne va pas jusqu'à le destituer comme l'opposition l'avait demandé. La plus haute juridiction du pays ordonne la nomination d'un premier ministre de consensus dans un délai de 7 jours et la constitution d'un nouveau gouvernement. Sa composition devra être proportionnelle aux résultats des législatives de 2013, précise la HCC, et c'est ce gouvernement, avec la commission électorale malgache, qui organisera l'élection présidentielle. Elle se tiendra pendant la saison sèche de cette année, ce qui laisse jusqu'au mois de septembre pour le scrutin. Enfin, la HCC précise que le chef de l'État devra démissionner 60 jours avant la date du premier tour, dans le cas où il serait candidat à sa réélection. Elle laisse 10 jours aux différents protagonistes pour trouver un accord de sortie de crise, sans quoi son arrêt sera applicable. Cela fait maintenant un mois que les députés de l'opposition descendent chaque jour place du 13 mai à Antananarive pour réclamer la démission immédiate de R. Razunamampian. En l'espace de quelques jours, la contestation des lois électorales s'est transformée en mouvement politique contre le pouvoir en place.
Laure Verneau, retour en France avec un tableau de Paul Signac qui a été volé au musée des Beaux-Arts de Nancy. Sa disparition a été constatée jeudi. Il s'agit du port de La Rochelle, une toile emblématique du style pointilliste du peintre dont la valeur est estimée à 1,5 million d'euros, considéré comme trop connu et donc impossible à écouler sur le marché de l'art par la plupart des spécialistes. Côté météo, un front orageux nous revient par l'ouest. 9 départements du Poitou aux Pyrénées-Atlantiques sont placés en vigilance orange. Des orages qui vont gagner le bassin parisien, la Picardie et le Grand Est dans l'après-midi, sous des températures attendues entre 20 degrés à Biarritz et 30 degrés tout à l'heure pour Paris et Strasbourg. Merci à Emmanuel Fossillon qui réalisait les journaux de cette matinée. À 12h30, vous retrouverez Mathieu Laurent.